Wim Wenders, Rintaro, Alain Tanner, Jane Birkin, Alfonso Cuarón, pas de doute, nous sommes bien à Lyon au Festival Lumière. Bonjour à tous, vous écoutez Revue et Corrigée, la grande vadrouille, le tour de France des festivals de cinéma par Revue et Corrigée. La Grande Vadrouille au Festival Lumière 2023, épisode 2. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le petit blond de la Casbah, Alexandre Arcadi. Nous allons rencontrer le patron des chaînes Ciné Plus Classique et Ciné Plus Club, Bruno Deloy. Mais tout d'abord, on retrouve la réalisatrice Delphine Glaise pour parler de John McCabe, 1971, de Robert Altman. Voici au Sofitel Bellecour, près de la place Bellecour, au centre de Lyon, en compagnie de la réalisatrice Delphine Glaise. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous allez nous parler d'un film de Robert Altman qui s'appelle John McCabe. En un mot, ça parle de quoi ce film ?
Ah, en un mot, ça parle de ma passion dans la vie, c'est-à-dire la passion des losers, et en tout cas des losers, des gens qui croient à leur idéal et qui sont peu enclins à regarder la réalité en face et qui ont quand même l'utopie d'un monde à créer, malgré tout, tout en sachant qu'ils vont directement à leur perte. Ça, c'est un truc qui me fascine. Et chez Altman, il y a ça. John McCabe, c'est un film que j'ai vu, moi, assez tardivement, c'est-à-dire après avoir vu, finalement, sa période plus récente. J'avais d'abord vu Shortcuts, qui sont un peu... parce que chez Carver, en tout cas dans les héros de cette Amérique-là, ce sont les cousins un peu de John McCabe. Hein, oui. Mais j'ai découvert le film après, et ce qui m'a... Ce qui m'a vachement touchée, c'est que c'est une expérience, ce film en salle, c'est une expérience quasiment physique, en fait, de spectateur. Par l'image, bien sûr, mais parce que... Je ne sais pas si c'est la confrontation d'un garçon très propre comme Warren Beatty, le mettre dans la boue. Être frappé par la beauté des mouvements de Vilmos. Quel artiste qui fait ce film-là à 40 ans et qui initie avec lui, avec Altman, les mouvements de caméra de Dolly et de Zoom en même temps. Mmh. Et qui seront après utilisés dans les fameux panoramiques un peu dingues de Palma. Et il y a le sentiment d'une grande, comment dirais-je, d'une grande exigence formelle, mais qui prend au corps, quand je disais expérience physique de spectateur, c'est-à-dire qu'il y a en même temps un tel bordel dans les personnages qui se coupent la parole, comme toujours chez Altman, dans des actions qui ont lieu au bout du plan, au coin du plan. Il y a quelque chose qui fourmille et en même temps une grande sobriété, assurance formelle. Et ça, c'est comme si, alors à défaut d'être un film choral comme il fera plus tard, en fait, c'est un film musical, mais comme si c'était une valse un peu bancale. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui prend aux tripes de se dire, mais alors attends, c'est quoi ? La vie fourmille, se heurte, les gens se contredisent, il y a cette caméra hyper élégante, et il y a d'un seul coup les chansons de Leonard Cohen qui viennent là un peu comme des coryphées dans les tragédies grecques, c'est-à-dire que c'est ni un commentaire, ni une illustration, c'est souvent une contradiction, ou bien, si, quand même une prophétie de ce que le personnage est en train de perdre. Et c'est le tout donne quelque chose d'assez noir, d'assez mortuaire et d'assez, comment dire, fatal. Il y a quelque chose de fatal, je ne sais pas comment le dire autrement. Et quand, oui, vous m'avez dit ça parle de quoi, j'allais vous dire ça parle de boue. Et c'est assez merveilleux. La chose qui est frappante aussi, c'est que c'est le chef-op utilise dans ce film, en tout cas pour la première, sauf sur le dernier plan, mais aussi un système de flashage, de filtre qui donne, sur toute la pellicule, qui donne un aspect nébuleux à l'image. Et ce grain-là, c'est aussi une expérience physique. Je suis assez frappée parce que dans la version française, je ne sais pas ce que ça peut donner. Tout ce que je vous dis sur l'expérience physique, pas seulement du récit, mais de la beauté des images, et du rythme, du montage, etc. En fait, il faut savoir que c'est Hugo Frey qui chante les chansons dans la version française. Je ne suis pas sûre que le réalisme poétique un peu exacerbé marche avec Hugo Frey. Donc Léonard là, vraiment, Cohen, je vous Hugo dis un Frey. Truc. Vraiment Léonard Cohen, quoi. Vraiment. Mais même Léonard Cohen a cette chose dans la voix qui pourrait être la grammaire aussi du film lui-même. Faut-il toujours croire ce que dit Léonard Cohen ? Oui, moi je pense que dans la vie, oui. Et dans ce film, si on croit tout ce qu'il dit dans chaque chanson, on se dit qu'on va vers la perdition. Mais ça, c'est magnifique. Il y avait une critique américaine dans le New Yorker au moment de la sortie qui disait qu'Altman, bon, évidemment, on reprenait un peu le thème du western, etc. Attention, un homme entre en ville, etc. Mais qu'il avait conçu, en tout cas, la ville de ce western comme d'autres envisageraient des châteaux dans le ciel. C'est-à-dire que c'était la création d'une ville fantôme. Et je trouve ça très juste parce qu'il y a quelque chose d'un vent qui souffle trop dans ce film. Qui est vraiment le génie d'Altman, quoi. C'est comment créer la possibilité d'une fin pour tous ces personnages très arrivistes, très individualistes, qui pensent qu'à eux, où l'amour est monnayé exclusivement. Je ne sais pas. Il y a un souffle fantomatique qui fait qu'on se dit mais que tout ça ne peut pas bien se terminer.
Oui, c'est vrai, non. Quand on pense à Robert Altman, les films qui apparaissent comme ça tout de suite, c'est M.A.S.H., The Player, Shortcuts, et on pense peut-être moins à John McCabe.
Oui.
Dans ce que vous avez dit, c'est vrai que qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui a envie de découvrir le cinéma de Robert Altman et lui dire aussi peut-être voir John McCabe.
Eh bien, c'est bizarre parce que je lui dirais, est-ce que tu aimes le cinéma de Sam Peckinpah ? Est-ce que tu aimes John Huston ? Et est-ce que tu aimes Les Portes du Paradis de Cimino ? Et si la personne dit non, alors je vois plus cette personne, je lui casse la gueule, mais si la personne dit oui, je lui dis alors John McCabe, c'est ça, c'est tout ça, et c'est autre chose encore, en fait. Je pense que vraiment la dimension tragique du film, elle est stupéfiante, elle est très littéraire, elle est stupéfiante. Mais oui, c'est vrai qu'on commence souvent, moi j'ai commencé par M.A.S.H. et j'ai commencé par Shortcuts. Où il est peut-être plus... c'est tellement foisonnant, c'est tellement une proposition d'univers, c'est tellement... que ce soit chez M.A.S.H., même s'il n'a pas écrit le scénario de M.A.S.H., parce que 32 metteurs en scène l'avaient refusé avant lui, mais M.A.S.H., on est chapeauté par la guerre, il y a quelque chose de la... qui chapeaute, même si c'est hors champ, etc., tous les effets de la guerre dans un délire absolu et dans quelque chose d'outrancier. Dans Shortcuts, il y a toutes ces nouvelles de Carver et toute cette vie américaine quotidienne où les couples meurent petit à petit, où des drames de la vie quotidienne, mais chapeautés par la possibilité d'un tremblement de terre ou d'une attaque d'insectes. Dans John McCabe, c'est l'histoire de l'Amérique elle-même qui on est chapeauté par rien. Chaque personnage a en lui, en fait, il est artisan de la remise en cause des fondations de l'Amérique. Vous voyez, c'est un film de l'intérieur.
Oui, c'est un cinéaste évidemment très, très américain, comme il y a une littérature très américaine. Est-ce que malgré tout, ce cinéma, ce film, pour vous en tant que cinéaste, ça vous a influencé d'une certaine manière ?
Ça m'a fait dire ça clairement, formellement. Ça m'a fait dire qu'il faut arrêter de penser que le Steadicam sauve la vie et que, maintenant, moi, je pense que le drame, la pub a amené ça, c'est qu'il n'y a pas un personnage qui parle à une table sans qu'il y ait un petit travelling vers l'avant, un petit travelling sur le côté. Comme si la confiance n'était plus faite au corps, dans John McCabe, un corps qui tombe d'une charrette. C'est formidable. Ou on zoome dessus, mais on assume ce qu'on fait, ou on tourne autour et on assume ce qu'on fait, ou on le regarde, ou on fixement, frontalement, on regarde les accidents du corps. C'est l'anti-chichiteux, quoi. Mais c'est vraiment la réunion. Le film est assez beau parce que c'est vraiment la naissance d'un amour fou entre un metteur en scène et son chef opérateur. C'est-à-dire qu'ils parlent un langage tous les deux qui est le même.
C'est John McCabe de Robert Altman avec une image et une lumière de Vilmos Zsigmond. Merci beaucoup, Delphine.
Merci Grèce. À vous. Merci.
Le Festival Lumière, c'est évidemment le rendez-vous du cinéma classique, mais cela n'empêche pas quelques incursions vers le cinéma contemporain. Et quand c'est un réalisateur iconique qui revisite son enfance, il y a de quoi attiser notre curiosité. Alors on retrouve tout de suite Alexandre Arcadi. Voici à l'UGC Astoria, en compagnie du réalisateur Alexandre Arcadi. Bonjour.
Bonsoir, oui.
Alors vous sortez de la présentation de votre prochain film, Le Petit Blond de la Casbah. C'est passé comment cette présentation ?
Ben, c'est bien. Moi, j'aime bien le... Vous savez, nous, les cinéastes, on travaille des mois et des mois, pas dans la solitude, parce qu'on est entouré de techniciens, de comédiens, etc. C'est pas la solitude, mais on fait du spectacle, au fond. On raconte des histoires. Et on est très friands de savoir comment le public va recevoir cette histoire. Et avant la sortie des films, ce que nous appelons les projections de promotion, c'est très agréable de converser avec le public qu'on ne connaît pas, au fond. Parce que quand on est au théâtre, on le voit tous les soirs, on voit sa réaction, mais nous, au cinéma, on ne le voit pas tous les soirs. Donc voilà, c'est plutôt très, à la fois très réconfortant. Il y a des questions par moments qui sont très, très pertinentes, d'autres moments un peu rigolotes, tout ça. Voilà, c'est bien de s'ouvrir un petit peu au public et d'entrevoir un petit peu les coulisses d'un film.
Oui, vous dites c'est le monde du spectacle, il y a un côté presque spectacle vivant à ce moment-là dans l'échange.
Oui, parce que j'ai été acteur, donc j'ai pas de difficulté à répondre, à converser en public, c'est quelque chose qui me plaît. Je suis même un peu trop bavard, il faut dire. Mais voilà, donc c'est d'abord les projections se passent magnifiquement bien, donc il y a rien de plus heureux pour un metteur en scène de savoir qu'il ne s'est pas trompé, que son rêve va être partagé. C'est ça qu'on souhaite, c'est de partager le rêve. Et j'ai l'impression que celui-là va être drôlement bien partagé.
Le Petit Blond de la Casbah, dont la sortie est prévue le 15 novembre. C'est une adaptation de votre autobiographie qui est parue il y a maintenant 20 ans.
Presque 20 ans, oui. Il a fallu attendre, voilà, c'est comme ça. Il faut laisser du temps au temps. Et là, peut-être parce que j'ai été, il n'y a pas longtemps, grand-père. Et je me suis dit, tiens, il faut quand même laisser une trace de cette histoire, de cette famille emblématique qui vivait là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai eu envie de faire ressurgir un petit peu toute cette famille, toutes ces figures qui m'ont entouré avec tellement de bonheur dans mon enfance. Voilà. Alors... c'est pour eux, mais c'est pour nous tous. Hein. La mémoire, c'est quelque chose qu'on a envie de partager. Et puis chacun retrouve dans ce film, j'ai l'impression, ses propres souvenirs. Il ne faut pas être forcément né en Algérie pour comprendre le déchirement d'une famille qui quitte un pays. Il ne faut pas être né de l'autre côté de la Méditerranée pour comprendre que les enfants se couchent à même le carrelage en été parce que c'est là où on retrouvait de la fraîcheur. Ouais, c'est des petites choses comme ça qui touchent les gens. Et d'une certaine manière, ce film me rappelle un petit peu moi, un film que j'ai adoré qui s'appelait Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso racontait l'histoire de ce petit gamin, de ce projectionniste au fin fond de la Sicile. On ne connaissait absolument rien ni de ce village, ni de ce pays, ni rien. Et pourtant, par sa sincérité, sa vérité, son émotion, il a été vu dans le monde entier. Donc d'un film personnel, je pense que j'ai fait avec Le Petit Blond de la Casbah un film assez universel. Voilà.
Oui, vous racontez votre histoire, mais par le prisme aussi de la mise en abîme. C'est pas une biographie qui prend le point de départ de tout le détail de votre histoire.
Non, parce que l'histoire est racontée avec sous l'éclairage du cinéaste et du scénariste. Forcément, il a fallu faire des fulgurances, il faut faire des raccourcis, il faut inventer des choses, y compris dans le casting. Et on ne dévoilera pas une partie du casting qui est assez surprenant. Voilà. Donc, c'est autobiographique, certes. C'est inspiré de beaucoup d'événements très personnels. Mais c'est, réécrit par la main d'un cinéaste.
C'est une chose d'écrire dans un livre sa vie, c'est une autre de la filmer. Ça n'a pas été difficile, ça ne vous a pas fait peur?
Ça, c'était compliqué. Ça m'a fait peur parce que J'avais des craintes de me laisser submerger. Par moments, ça m'est arrivé, hein, de me laisser submerger par l'émotion, parce qu'il y avait une telle vérité. Tout d'un coup, je me revoyais, je revoyais mon enfance, je voyais mes 13 ans. Voilà, c'est ce retour sur l'enfance, où le moment où tout est possible, tout est ouvert, les plus grands rêves, les plus grands espoirs, les plus grandes interrogations. On n'est pas encore construit, on sent qu'on se construit. Et c'est cette sensation de la construction qui apparaît, je crois, dans le film.
Oui, c'est aussi un film sur la transmission. Et votre fils a travaillé aussi, Alexandre Aja, qui est également un cinéaste.
Oui, qui est un grand cinéaste, qui est plus connu que son père, outre-Atlantique, si je puis dire. Oui, bon, voilà, il a suivi ce chemin. Il l'aurait fait peut-être sans moi, c'est sûr. Mais c'est vrai que d'avoir été sur mes tournages, depuis Le Grand Pardon, où il jouait le petit garçon du film, jusqu'à celui-là, ça c'est extraordinaire, parce que effectivement on parle d'un film de la transmission, mais d'avoir son propre fils qui est cinéaste et qui vous propose de venir tourner sur le film. Alors il a fait la deuxième équipe, moi je racontais mon passé, lui il m'aidait à reconstruire son histoire. Et ça c'était formidable, parce qu'il y avait vraiment un exemple comme ça de transmission.
Et le présenter ici au Festival Lumière, c'est particulier ?
C'est un honneur, c'est un plaisir, parce que j'aime beaucoup la ville de Lyon. J'y ai vécu pendant un an et demi, à un certain moment de ma vie. C'est une ville qui est très agréable. Et puis ce festival est une belle vitrine du cinéma et de l'amour du cinéma. Et comme c'est un film aussi sur un enfant qui découvre le cinéma, c'est aussi un film sur le cinéma, voilà.
C'est Le Petit Blond de la Casbah, et c'est donc en salle le 15 novembre. Merci beaucoup, Alexandre Krieg.
Merci.
Bien sûr, au Festival Lumière, tout le monde vous dira la même chose, rien ne vaut le grand écran. Mais quand même, qui n'a pas découvert un grand classique du cinéma sur sa télé ou son ordinateur ? Et c'était peut-être sur Ciné Plus Classique. Alors comment ça se passe de diriger la première chaîne privée consacrée au cinéma classique en France ? On en parle avec Bruno Deloye. Nous voici au marché international du film classique, en compagnie de Bruno Deloye, directeur des chaînes Ciné Plus Classique, Ciné Plus Club, chaîne du groupe Canal. Bonjour Bruno Deloye.
Bonjour à vous, merci de l'invitation.
Mais avec plaisir. Alors sur Ciné Plus Classique, qui est vraiment la chaîne consacrée au cinéma classique, comme son nom l'indique, au cinéma de patrimoine, quel type de film on peut y voir ? Quelle est un peu la ligne éditoriale, si on devrait dire ?
Alors c'est une chaîne généraliste dans ce domaine particulier du répertoire. Donc pour nous, le répertoire, c'est en fait des bandes géographiques, pour faire simple. Mm-hmm. C'est le début de l'histoire du cinéma. Alors honnêtement, quand même, avec une prédilection pour le parlant, malgré tout. Je ne vais pas vous dire qu'on est exhaustif sur la période du muet, même si on en fait, mais on n'en fait pas suffisamment, je sais. Mais on essaye malgré tout d'en faire. Par contre, c'est vrai que sur la période du parlant, on va donc aller des années 30 aux années... fin des années 70, on pourrait aller plus loin juridiquement parlant, puisque en France, un film de patrimoine, juridiquement parlant, c'est un film de plus de 30 ans. Donc on pourrait dépasser les bornes, aller vers le cinéma des années 80.
Voire 90.
Voire 90 même, mais je ne veux pas vieillir peut-être, c'est pour ça. Sauf qu'à force de trop embraser, on n'embrase plus vraiment. Et ça veut dire que le cinéma des années 30, à l'instar de ce qui se passe sur d'autres antennes, disparaîtrait des radars au profit des films plus récents. Donc on a préféré continuer à rester dans ces bornes-là, parce qu'on a d'autres antennes, Club en particulier que vous citiez, qui peuvent diffuser du cinéma contemporain ou plus récent, et qui va être l'occasion de diffuser le cinéma des années 80, 90, 2000. Donc voilà, on a une période d'activité, donc années 30, années post-nouvelle vague, on va dire, années 70. Et à l'intérieur de cette ère de jeu, entre guillemets, ben on est une chaîne généraliste. Donc on va diffuser aussi bien de la comédie que du western, aussi bien du film très reconnu, très populaire, ce qu'on appelle aujourd'hui les grands classiques, mais aussi des films beaucoup plus rares. Parce que comme on a la chance d'avoir 24 heures d'antenne, ça permet d'avoir une liberté d'action beaucoup plus grande que n'importe quelle case de ciné-club sur des chaînes généralistes aujourd'hui. Donc on est à l'affût, dans des festivals comme le Festival Lumière en particulier, de repérer des films qui ont une nouvelle restauration, qui bénéficient d'une nouvelle lumière par la sortie en salle, par une sélection en festival. Et donc, on essaye d'être cohérent aussi avec ce qui se passe dans notre écosystème, hors les murs. Donc les festivals, les éditeurs de patrimoine, les distributeurs de patrimoine. Et on essaye d'être représentatif de cette histoire du cinéma, en sachant qu'on n'est pas une cinémathèque, donc on n'a pas non plus une vocation d'éducation à l'image particulière, même si in fine on le fait. Donc voilà, c'est vraiment... je pensais que moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais cette chaîne, qu'à un moment donné, j'allais tourner en rond, en fait, et on s'aperçoit que chemin faisant... Et encore, je veux dire, on n'a pas fait le tiers du job. Donc, il y a encore suffisamment de choses à faire redécouvrir. Donc, dans la programmation, en fait, on alterne des choses qu'on va dire grands classiques, des films reconnus, et puis des films beaucoup plus rares. Et notre métier, enfin, mon job, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre entre ces films qui vont être eux-mêmes portés par leur succès et puis d'autres qui vont devoir être découverts. Donc, je l'espère, un heureux mélange de ces contraintes-là.
Et vous, votre cinéphilie, vos goûts en matière de cinéma, est-ce qu'ils influent dans le travail de programmation ?
Alors, je ne vais pas vous dire que je suis neutre, donc évidemment qu'elles influent, entre guillemets. J'essaye de faire en sorte qu'elles ne soient pas l'exclusivité de la chaîne non plus. Donc il y a des choses que j'aime moins que je diffuse, il y a des choses que j'aime beaucoup que je diffuse. Après, c'est vrai que quand vous faites une découverte ou une redécouverte d'un film, que ce soit dans le contemporain ou dans le patrimoine, je ne mets pas mes goûts de côté non plus. Après, moi, il y a des domaines, par exemple, dans le contemporain, le domaine de la science-fiction ou des choses, ce qui est un peu moins de mon domaine naturellement d'intervention. Je ne m'interdis pas d'en diffuser pour autant. Donc oui, il y a une part d'objectif, il y a une part de subjectif. Et puis après, on fait des opérations, des cartes blanches, des choses comme ça, qui permettent aussi d'apporter des regards nouveaux ou des regards différents, en tout cas peut-être pas nouveaux, mais en tout cas complémentaires sur le cinéma. Et comme je le disais, comme une partie de mon travail, c'est aussi de repérer tout ce qui se fait en termes de ressorties, en termes de focus dans les festivals, en termes d'édition DVD, il y a un moment donné, ça guide aussi mes choix, à un moment donné, de faire un focus sur telle ou telle personnalité, parce que tout d'un coup, Kinuyo Tanaka, quand c'est ressorti, tout d'un coup, c'était un événement du monde du patrimoine auquel je ne pouvais pas ne pas m'associer à un moment donné. Donc, on a coproduit un documentaire autour de cette actrice devenue réalisatrice, entre guillemets. Donc, ça, c'était pas forcément ni objectif ni subjectif, c'était inconnu et ça a pris la lumière et donc tout d'un coup ça avait du sens à ce qu'on le diffuse. Donc j'essaye d'être le plus représentatif de ce monde du patrimoine avec une chaîne de plein exercice. Donc ça me laisse pas mal de liberté entre ce que j'aime et après je veux dire je me fais pas violence non plus quand je déteste profondément je suis un être humain, donc voilà. Il y a certainement des erreurs de jugement. Je l'accepte. Après, on fait pas ce métier de manière neutre non plus. Donc voilà, il faut assumer sa part de subjectivité. Je l'assume volontiers. Je fais en sorte de la corriger le plus possible en allant voir le maximum de choses possibles, parce que c'est ça qui importe. Il faut pas avoir de prérequis ni de préjugements sur les choses. Il faut prendre le temps de voir, de revoir. Maids Eternal, par exemple, que j'ai redécouvert cet été. C'est des choses que j'aurais peut-être pas vues, que j'aurais pas été voir.
C'est une réalisatrice qui faisait partie aussi d'une programmation ancienne du Festival Lumière.
Voilà, qui était à l'honneur. Mais de toute façon, ce que font le Festival de Lumière, Bologne, La Rochelle, des choses comme ça, sont pour nous des éléments très importants. Parce que, comme je le disais, on est dans un écosystème. Et ce que fait un festival ou une ressortie salle permet de mettre en lumière des films qui étaient un peu oubliés. Donc on va tous profiter que la presse, tout d'un coup, grâce à la sortie salle, fasse des traitements plus particuliers de telle ou telle rétrospective, fasse que moi j'en bénéficie aussi lorsque je vais diffuser les films en question. Donc voilà, c'est d'être en bonne intelligence avec cet écosystème, sans préséance, parce qu'on est dans un domaine qui n'a plus de combat à mener. Enfin, je veux dire, c'est la coordination de l'ensemble de nos moyens qui va faire exister le patrimoine et qui va continuer à le faire exister. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il faut être ouvert à tous les vents et de se dire et se laisser impressionner, se laisser découvrir. Moi, je découvre toujours des choses. Même, je vais à Bologne voir une rétrospective mamouliane, par exemple. Je découvre des films beaucoup plus rares de ce cinéaste. et je vais faire une rétrospective. Je vais certes prendre des films iconiques auxquels on associe Mamoulian naturellement, mais je vais aussi m'autoriser, sous réserve de trouver les films, ça c'est aussi l'autre sujet, de trouver les bonnes copies, les ayants droit, parce que nous on est dans un univers commercial, donc on ne peut pas faire du non commercial dans l'absolu, donc il faut qu'on trouve l'ayant droit qui a effectivement les droits. Donc là il y a tout un travail à faire, mais ce serait, comment dirais-je, impardonnable de ne pas le faire, ce travail.
Et évidemment, il y a un accompagnement aussi de ces films à travers alors, de plusieurs documentaires.
Oui, alors il y a un accompagnement par différentes choses. Alors, une vraie logique de politique documentaire initiée il y a plus de 20 ans, on doit être à 1000 documentaires produits aujourd'hui, coproduits, puisqu'on est en coproduction, qui permettent à un moment donné de donner à comprendre ce que l'on donne à voir. Et ça, c'est important, c'est dire que nous, on n'est pas une cinémathèque, donc on s'adresse à des gens qui sont certes passionnés par le cinéma, qui sont cinéphiles, mais par exemple, on a diffusé récemment au Festival Lumière en sélection dans le cadre de la logique documentaire que le festival propose, un film sur Keiko Keishi, qui était une grande actrice japonaise, qui a travaillé avec Ozu, Naruse, etc., et qui a eu une carrière française étonnante, un peu oubliée. Et donc, tout d'un coup, le fait de consacrer un documentaire à cette actrice, toujours vivante d'ailleurs, ça va m'obliger à faire une programmation autour de films, oui, que je n'aurais certainement jamais diffusés s'il n'y avait pas eu cette approche documentaire. Donc, le documentaire chez nous, c'est certes une programmation à part entière, un élément souvent exclusif, inédit, un apport véritable. Nous, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que l'antenne ne soit pas un robinet à film comme peut l'être une plateforme ou des choses comme ça. Donc on essaye de trouver des axes rédactionnels qui permettent de donner du sens et d'associer les films entre eux. Quand on fait un doc, on fait souvent un cycle de films. À l'intérieur des cycles, on va diffuser des films, comme je vous le disais, très connus et des films beaucoup moins connus, parce que tout d'un coup, le fil rouge qu'est le documentaire va permettre d'aller de l'un à l'autre et d'ouvrir la curiosité de notre public. Donc ça, c'est la première approche d'accompagnement. La deuxième, c'est qu'on a une émission hebdomadaire qui s'appelle Viva le cinéma, qui traite de toute l'actualité du patrimoine, c'est-à-dire ce qui se passe en salle, ce qui se passe en DVD, en édition, et ce qui se passe aussi sur l'antenne, parce qu'on est aussi un média à part entière, donc on est aussi un acteur de ce petit monde. Et là aussi, l'optique de ce magazine, c'est de donner envie d'aller voir les films. Alors qu'ils aient envie d'aller voir les films en salle, ou qui reste pour moi l'écran premium de la diffusion, il n'y a pas photo. Hein. Après, on a une logique de diffusion nationale qui permet à des gens qui sont éloignés de toutes ces activités de ressortissage d'avoir aussi accès à ces films. D'où l'importance de faire ce magazine, parce que souvent, les films dont parle le magazine, on va les retrouver à l'antenne à un moment ou à un autre, ou au moment où le magazine est diffusé, ou plus tard, et dans ce cas-là, on extrait le reportage en question pour le diffuser en accompagnement. Donc voilà, ça c'est notre façon. Et puis l'autre façon, ce que disais pour avoir une logique rédactionnelle, c'est faire un agrégat de films autour d'une thématique qui permette de couvrir un champ plus large, on va dire, d'un acteur, d'un réalisateur, d'une période de cinéma, qui fait que l'addition de l'ensemble des films fait plus qu'une addition arithmétique simple et basique. Donc voilà, ça c'est un peu notre métier, c'est vraiment donner ce sens et le fait d'avoir cet espace-temps et d'avoir aussi aujourd'hui une nouvelle dimension qui est la dimension numérique, c'est-à-dire la plateforme MyCanal, qui permet sur une thématique donnée aussi d'offrir des films que l'on ne diffuse pas sur la chaîne en linéaire mais qui sont proposés sur la plateforme. Donc ce qui fait que ça permet d'élargir. Là, au mois d'avril prochain, par exemple, on va faire une opération autour de Werner Herzog où on va diffuser, de mémoire, si j'en suis arrivé à 43 films. Jamais sur une chaîne linéaire j'aurais pu diffuser 43 films, mais ça n'a pas de sens. Enfin, de mettre toute la journée Herzog pendant un mois et demi, je veux dire, à un moment donné, c'est contre-productif dans l'absolu. Par contre, de se dire que l'antenne linéaire va porter un certain nombre de titres forts sous forme thématique, accompagnée d'un doc, accompagnée d'un magazine, etc., etc., et qu'en parallèle, MyCanal, dans la partie classique de MyCanal, puisse permettre de diffuser tous les autres films du réalisateur qu'on va avoir à ce moment-là, bah, tout d'un coup, on offre quelque chose d'inédit et qui permet d'avoir un vrai approfondissement. Alors là, quasiment exhaustif, donc c'est un peu rarissime. On ne fait pas ça non plus sur tous les réalisateurs. Hein. Mais là, il y a une opportunité à le faire. Donc on essaye de le faire. Donc on essaye, voilà, de, de considérer que même le non-linéaire, donc le royaume du cinéma à la demande, soit malgré tout fait intelligemment, ordonné. Il n'y a rien de pire que d'avoir tout disponible. Il n'y a plus rien disponible. Quand tout est disponible, bizarrement, les gens ne savent plus quoi choisir. Le surchoix tue le choix dans l'absolu. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, on fait volontairement des choix qui peuvent, comme vous le disiez, paraître subjectifs, évidemment. Mais on va vous les agencer de telle manière à ce que si vous avez envie de prolonger la découverte d'un film d'Herzog par d'autres choses, bah vous allez pouvoir avoir tout un choix disponible au moment où vous voulez, quand vous voulez, en qualité restaurée, parce qu'on essaye à ce niveau-là de faire de bénéficier aussi de tout le travail qui est fait par la chaîne du monde du patrimoine sur les restaurations. Et d'apporter quelque chose qu'on est les seuls à pouvoir apporter véritablement aujourd'hui. Quoi.
Oui, et puis il y a certains films sur la plateforme qui sont disponibles pendant des durées assez longues. Ça arrive de voir plus de 3 mois de disponibilité.
Oui. Alors là, sur la plateforme, les droits SVOD, c'est une affaire de négociation. Ce n'est pas lié à une problématique juridique, alors que sur le linéaire, c'est lié à des logiques juridiques. Donc là, oui, ils peuvent être disponibles un certain temps. Parce que, bah, pareil, si on met Werner Herzog 41 films, on se doute bien que les gens ne vont pas ne faire que ça non plus. Donc, il faut leur donner aussi le temps et cette souplesse de pouvoir les regarder au moment où ils ont envie de picorer, de revenir, d'aller faire autre chose et potentiellement de combler les films qu'ils n'auraient pas pu voir à un moment donné. Donc oui, il y a une question de rapport au temps. On est sur du temps long. Parce que, je veux dire, dans cet univers de chaînes thématiques et de numérique, il y a énormément de propositions. Donc on n'est pas sur une chaîne hertzienne où il y a un programme. Donc il y a à un moment donné, il faut laisser le temps au temps pour que les gens puissent déjà le savoir. C'est toute la difficulté, c'est aussi de faire savoir ce qu'on fait. C'est très compliqué dans l'absolu. Enfin, c'est très compliqué parce que la presse ne traite relativement peu, enfin la presse télé j'entends, relativement peu, il y a plus les grilles ou tout ça ne sont plus traités, donc ce qui fait qu'il faut laisser au temps son action pour que les gens sachent que ça existe et prennent le temps de le découvrir. Et
vous travaillez aussi avec les films du catalogue de Studio Canal, qui est une filiale de Canal+.
Bien sûr, on travaille avec tous les cataloguistes, mais aussi beaucoup avec Studio Canal. Bah, c'est le plus gros catalogue français, oui. Enfin français, de films disponibles pour la France, pas seulement de films français. Hein. Mmh. Sur la France, en tout, ils ont 8000 films, je pense, et pour la France, il doit y en avoir 4000, parce qu'il y a des films qu'on a pour certains territoires et pas pour la France. Donc il faut savoir de quoi on parle quand on évoque des chiffres. Mais donc 4000 avec voilà, un agrégat des plus beaux catalogues des années 30 à la nouvelle vague, en passant par le cinéma contemporain. Donc on ne se prive pas d'y aller. Après, je ne suis pas une chaîne Studio Canal non plus. Et de toute façon, un catalogue n'est jamais autosuffisant en lui-même. Et l'important, surtout quand vous faites des approches thématiques, c'est d'aller prendre tel film là, tel film ailleurs. Et quand je fais un cycle, je ne me limite pas, même pour une major américaine, à prendre la seule période Warner de tel ou tel réalisateur. Mmh. C'est plus simple, hein. C'est beaucoup plus simple à faire. Je vais me fatiguer, mais c'est une bonne fatigue, à aller chercher, à aller picorer un film chez Warner, un film chez Universal, un film chez... Et par exemple, Mamoulian, il a travaillé avec énormément de studios dans sa vie professionnelle. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui de retrouver certains films. Donc il y a un vrai travail d'archéologie, de recherche de films qui peuvent prendre du temps dans l'absolu. Et qui fait que souvent, quand on décide de faire une thématique, il y a la programmation rêvée, c'est-à-dire les films que vous voudriez avoir. Puis après, il y a la réalité, le mur de la réalité s'impose à tous et à nous aussi. Il y a des films qu'on va avoir du mal à trouver, que malgré tous les efforts qu'on fait, qu'on va pas trouver, ou qu'on va trouver, mais sans forcément avoir une chaîne de droit qui est véritablement juste. Et on ne va pas prendre de risques non plus. On n'est pas là pour prendre des risques. Donc voilà, la réalité s'impose à nous. Après, on est dans des domaines où il y a suffisamment, sur une carrière comme Mamoulian, il y a suffisamment de films pertinents pour que, si on n'en a pas un, on puisse en trouver un autre. Donc voilà, il faut avoir beaucoup d'ambition et puis après être raisonnable sur ce que la réalité peut vous offrir.
Alors, on a dit effectivement qu'il ne s'agit pas uniquement d'une compilation de films, mais malgré tout, on a un peu envie de savoir, ça représente combien de films sur
une année ? Dans l'univers en question, c'est énormément de films en rapport. Mais c'est vrai que la quantité n'est pas la lumière. sur le monde du patrimoine, donc on va dire ce que je vous ai dit, les bornes avant 70, c'est entre 500 et 600 films par an.
Oui.
Donc c'est beaucoup, enfin c'est beaucoup plus que n'importe quelle offre, ça c'est sûr. Là je compte linéaire et non linéaire, hein, dans l'absolu. En linéaire c'est un film nouveau par jour, donc voilà, ça donne déjà le là. Donc ça permet de faire beaucoup de choses, c'est sûr. Je sais que mes confrères des chaînes publiques en particulier envient cette liberté-là parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là d'espace-temps, entre guillemets. Nous, ça a été bizarrement classique et l'héritière de Cinéphile qui a été lancée il y a plus de 30 ans. Donc, dès que Canal s'est lancé dans les chaînes thématiques sur le cinéma, il y a eu cette
C-I-N-E-F-I-L.
Exactement. Il y a eu cette idée de lancer une chaîne de patrimoine. C'était à l'époque très, très innovant. Donc, je pense qu'il y a toujours eu cette idée de considérer que le cinéma de patrimoine. On bénéficie en France aussi d'un public d'une curiosité étonnante. Il suffit de regarder au Festival Lumière les queues, il suffit de regarder dans n'importe quelle... l'ouverture sur le monde que la France a en termes de cinéma, que ce soit dans les coprodes minoritaires, que ce soit dans les sorties, les 700 films qu'on sort par an, fait qu'on est un pays que la plupart des étrangers n'arrivent pas à comprendre. Oui. Donc nous, on a cette chance inouïe d'être diffusé dans cet endroit qui a une ouverture sur le monde et une ouverture sur le patrimoine totalement inouïe. Donc on ne pouvait pas ne pas faire cette antenne. Enfin, c'était une évidence et elle existe depuis donc plus de 30 ans. Elle continue à exister, elle vit bien. Donc tant mieux, c'est inouï, c'est assez inouï en effet.
Et on est à la mi-octobre, si on doit conseiller quelques films qui sont disponibles actuellement ou prochainement sur Cineplus.
Alors, il va y avoir une belle rétrospective sur Greta Garbo. Elle a une carrière très courte, en fait. C'est un peu la Rimbaud du cinéma. Elle s'est arrêtée à 35 ans, hein, donc une carrière assez courte. Donc là, c'est des films qui étaient devenus assez rares. Bizarrement, même un nom comme ça, aussi mythique, peut disparaître des radars à un moment donné. Donc là, il y a toute une thématique autour de Greta Garbo. On vient de terminer une thématique mais que vous pouvez continuer à voir sur MyCanal, parce que la vertu aussi de MyCanal c'est que ça prolonge, je disais, le temps long. Une thématique sur Manicole. Il n'y a que la France qui peut aujourd'hui diffuser les films de Manicole. Ils ont été diffusés en salle. Ils font l'objet d'un coffret magnifique qui est disponible d'ailleurs à l'Institut. Et une chaîne de télé française va s'intéresser à Manicole, qui est un cinéaste qui a été totalement oublié partout. Donc c'est vrai qu'il y a cet écosystème qui est particulier. On a une très belle... Ça fait 25 ans, un peu plus, que j'essaye de faire quelque chose qui était impossible à faire jusqu'à récemment, une intégrale Eustache. On a tous connu les péripéties, les problématiques des films d'Eustache. Et moi, ça fait très longtemps que j'essaye de faire cette intégrale. Grâce au film du Losange, grâce à la ressortie qu'ils ont faite, qui a remis en lumière toute cette œuvre cinématographique, on va enfin pouvoir, en décembre, faire l'intégrale Eustache. Donc voilà, il y a très belles choses. Il y a en parallèle un cycle sur Black Edwards aussi. On est très très ouvert sur différentes choses. Et puis donc Herzog au mois d'avril avec une quasi intégrale, sauf les films très récents qui sont dans des circuits de distribution, mais sur le reste de sa filmographie. Donc voilà, on peut être à la fois précis. Et puis après, l'idée c'est aussi de ne pas faire que des thématiques, parce que comme je le disais tout à l'heure, la logique de l'antenne, c'est d'être aussi très ouverte et très diverse. Donc sur une semaine donnée, vous avez des choses très différentes, rassurez-vous. Mais on peut faire des focus comme ça sur des choses. Et dans les logiques de production documentaire, je citerai simplement les films qui sont ici. Donc un très beau film sur Lozay, une interview de Lozay rarissime qui avait été faite par Labarthe dans les années 60. Inédite, qui n'était jamais sortie, parce qu'à l'époque, André tournait des choses à compte d'auteur et ne les utilisait pas forcément. Et donc, c'est un très beau film qui a été fait par Dante de Sartre, qui a été montré au festival et qui va sortir. Et au mois de novembre, un cycle avec 7 films sur 8, je crois, donc presque l'intégralité de Valerio Zurlini avec un documentaire. Et là aussi, bah, là, pareil, voilà, c'est, donc vous voyez, c'est vraiment très divers en fait. Et c'est ça qui est important, c'est cette diversité, cet arc-en-ciel de films de patrimoine qui fait que, ça, que je pense que Classic est une chaîne un peu unique dans ce paysage. Donc enjoy.
De quoi satisfaire effectivement sa cinéphilie dans toute sa variété. Merci beaucoup Bruno Deloye, directeur de
Merci
Ciné
à vous.
Classic, Ciné Plus Club. Et voilà, Revue et Corrigée, La Grande Vadrouille, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé par les équipes de Revue et Corrigée en partenariat avec le Festival Lumière. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième et déjà dernier épisode de notre podcast au Festival Lumière 2023. À demain.